En quoi la pratique de l'aïkido rend libre, selon vous? De quoi rend-elle libre? Et surtout, qu'est-ce qu'être libre?
Je vous en ai parlé tout à l'heure, le corps est mémoire et il est en permanence occupé par un ensemble de contraintes. Ces contraintes s'expriment parce qu'elles sont inconscientes psychiquement, elles s'expriment par des tensions musculaires, par des tensions physiques, par des limitations articulaires et par éventuellement un handicap du geste. Voilà, j'ai vécu dans un couple parental avec une mère qui était hystérique et un père qui était coléreux. Leur équilibre était difficile et la violence qui était potentiellement entre eux me marque en tant qu'enfant et ça s'inscrit dans ma colonne cervicale, ça s'inscrit sur mon trapèze gauche, etc. Voilà, c'est écrit dans le corps. Et donc, la tension psychique, tout ce qui peut pas être dit, est mimé par le corps. La tension physique est l'expression de la tension psychique. C'est une projection vers le corps de ce qui peut pas être dit. Si ça pouvait être dit, ça prendrait le chemin de la pensée et de la parole. Ça peut pas être dit, c'est une forme de rétroaction vers le corps. Parce que l'on recherche un geste, et parce que l'on a idéalisé un geste, parce qu'on l'a conçu, et il peut être échangé, parce qu'il est là. Il est là dans celui qui le montre, il est là entre nous, et parce que ce geste est là, et que nous le recherchons, peu à peu, le geste permet de diminuer la tension physique, et donc de réintégrer la tension psychique. C'est-à-dire qu'on est passé par autrui, pour se comprendre soi, ces caractéristiques de toute relation. Toutes les relations sont basées sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution possible de la conscience si elle reste en elle. La conscience évolue que lorsqu'elle rencontre de l'autre. Okay ? De la même façon, là, le corps, lui, va restituer au psychisme la cause première de la tension physique dont il souffre ou dont il pourrait souffrir. C'est comme ça que s'installent les pathologies, c'est comme ça que s'installent les troubles musculosquelettiques, etc. Donc le corps va restituer, si on l'amène, lui, à une gestuelle qui dépasse ce cadre-là. C'est le principe de tout enseignement. Je veux dire, même si on met moins l'accent sur le corps et sur la gestuelle dans d'autres pratiques, si on regarde quelles que soient les pratiques qui ont une vocation initiatique, sont toujours passées par un niveau symbolique. Et ce niveau-là, il est toujours basé sur des rituels. Et ces rituels sont des gestes que fait le corps avec la conscience. D'accord ? Et c'est dans ce rapport au rituel que l'on retrouve les dimensions réelles de la conscience. C'est-à-dire une conscience qui n'est pas occupée par autre chose qu'elle-même. Donc, ça, c'est la première étape. L'aïkido permet ça, parce que quand je vais montrer une technique à un élève, et qu'il voit la technique, il voit le geste, il y aspire. Il y aspire pour différentes raisons. Il voit la fluidité, et il voit la souplesse de l'un et de l'autre, il voit le plaisir de l'un et de l'autre des exécutants, et en même temps, il voit une chose à laquelle il aspire, parce qu'il est aïkidoka, parce qu'il est venu là. Il n'est pas venu là par hasard, il est venu là parce qu'au fond de lui, il y a un écho qui dit que ta voix est là, c'est par là que tu vas te libérer probablement, quelque chose de très profond résonne. Et donc, quand il le voit, il aspire à le faire. Et dans cette aspiration à le faire, il y a un déplacement de lui-même vers un niveau gestuel, un niveau de compréhension de soi qui n'était pas présent encore. Et donc, il va travailler pour le rejoindre. Et c'est dans ce travail pour le rejoindre qu'il va trouver véritablement le moyen de libérer son corps, des tensions projetées vers le corps par le psychisme, et donc de ramener au psychisme ce qui doit y être. Donc, de cette manière-là, on peut dire que c'est efficace. Après, quant à la question « qu'est-ce qu'être libre ?» ou alors je réponds eh « ben, être libre, c'est être libre » ou bien il nous faut essayer de comprendre ce que signifie l'esprit, parce qu'il n'existe pas de liberté en dehors de l'esprit. Enfin, lui, il existe libre, il est libre. Il existe en chacun de nous quelque chose qui est absolument irrépressible, quelque chose qui est incoercible, qui est toujours là, et qui, même si ça n'est pas exprimé de manière extrêmement visible, compréhensible par tous, cette chose-là, elle est omniprésente et c'est elle qui nous fait vivre. Donc, dans cette dimension-là, nous sommes libres, nous sommes tous libres. Donc, être libre dans la vie quotidienne, ça veut dire que c'est l'esprit qui gouverne. C'est lui qui gouverne, pas autre chose. On n'est pas gouverné par quelque chose d'extérieur, on n'est pas gouverné par des contraintes, on n'est pas gouverné par les autres, on n'est pas gouverné par les obligations de loyauté transgénérationnelle, on n'est pas gouverné par nos appartenances à un système social, etc. On est gouverné par l'esprit, ou plus exactement, on est l'esprit.
L'esprit, dans quel sens vous l'entendez? Dans le sens oriental du terme ou dans le sens évangélique, tel que Jésus l'entendait ?
Je ne connais pas la différence entre les deux. Je ne sais pas ce que ça veut dire véritablement. Le Christ était un homme, semble-t-il, et un homme qui a manifesté son lien avec un esprit universel, qu'on appelle Dieu, voilà, qui a manifesté ce lien, qui a dit, voilà, regardez ça, c'est. Et donc, dans ce sens-là, oui, mais je crois que ça dépasse toutes les catégories culturelles, historiques. On n'est pas dans une forme ethnologique de l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit. C'est zéro, ici, maintenant, c'est Dieu, c'est... Vous voyez, pour moi, par définition, ça n'a pas de forme du tout. En Orient, on dit vacuité pour dire qu'il y a toutes les potentialités. Oui, bravo, pourquoi pas. C'est une expression, c'est une intention. Pourquoi avez-vous un corps ? Pourquoi êtes-vous là à en parler ? Voilà, je crois que c'est plutôt les questions qui nous expliqueraient ce qu'est l'esprit. Pourquoi vous, avec ce nom, ce prénom, ces parents ? Pourquoi cette histoire ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas il y a un siècle ou dans un siècle ? Pourquoi ici et pas ailleurs ? Enfin, je veux dire, on pourrait faire environ une centaine de questions tout de suite. Et après, uniquement par les questions et sans y répondre, on comprendrait peut-être ce qu'est l'esprit.
Néanmoins, l'esprit au sens évangélique du terme, puisqu'il y a une naissance à l'esprit, il y a deux baptêmes, le baptême d'eau, le baptême de feu. Le baptême d'eau étant celui de la conscience, on est d'eau et d'esprit. Et le baptême de feu, ce serait plutôt, alors dans ce sens-là, le baptême selon l'esprit, l'esprit saint.
Je vais vous dire quelle est mon interprétation, ça n'est que mon interprétation, mais on est d'eau et de feu, oui, on est d'un père et d'une mère. Donc on est du yin et du yang, du masculin, du féminin, de l'eau et du feu. Eau, feu, ka, mi, ça veut dire eau, ka, pardon, feu, ka, mi, l'eau. Kami en japonais, la divinité, kami, au feu. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui nous permet d'être un ? C'est que précisément nous ne sommes ni le père ni la mère. Nous sommes quelqu'un d'autre. Okay. Chacun d'entre nous naît et reçoit un corps parce que chaque famille veut se reproduire. La famille du père veut se reproduire, reproduire son histoire, continuer d'être. La famille veut continuer à vivre des deux côtés. Mais vous n'êtes qu'un. Et vous avez deux histoires à répéter. D'accord ? Donc il faut absolument que quelque chose d'autre que ce qui est hérité de l'un et de l'autre soit là. Et c'est cet autre qui arbitre, entre guillemets, une conflictualité normale, inhérente, propre à la vie, d'accord, qui fait émerger ce que vous êtes vous en tant qu'individu, concevable par les autres en tant que tel. D'accord. Et cette autre chose, c'est précisément votre esprit. Bon, deux parents s'accouplent, ils font trois enfants différents.
Alors, qu'est-ce qu'un guerrier spirituel au sens où vous l'entendez ?
Un guerrier, c'est quelqu'un qui combat. J'essaie d'expliquer régulièrement partout où je passe que quand les gens s'affrontent, c'est simplement qu'ils n'ont pas compris que le véritable ennemi, c'est ce qui les fait se combattre. Nous sommes de face à face, les armes à la main, nous sommes prêts à nous entretuer parce qu'ils n'ont pas compris que, d'une part, ce qui nous fait nous combattre est entre nous, c'est autre chose, c'est le vrai ennemi. Et ensuite, nous n'avons pas compris non plus que nous sommes dans une situation conflictuelle parce qu'ensemble, nous pourrions faire une chose que seul aucun d'entre nous ne pourrait faire. Donc le conflit, il est là pour ça, il est là pour nous signaler, pour nous dire, attention, vous avez ensemble une mission que vous pourrez réaliser ensemble. D'accord ? Donc le guerrier, au sens où je l'entends, le guerrier pacifique, le guerrier spirituel, c'est quelqu'un qui saisit ça et qui chaque fois qu'il se trouve dans une situation d'opposition, le montre, le met devant, dit, attends, non, nous n'avons pas à nous combattre. Et si jamais, entre nous, des forces négatives commençaient à agir, il nous faudrait tout de suite débusquer quel est le véritable ennemi, l'ennemi commun. L'ennemi commun, celui qui nous met en opposition. Parce que cet ennemi commun, si nous le débusquons, nous dira pourquoi nous devons nous rencontrer.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite voix intérieure dont vous parlez dans votre livre ? Et de qui elle est le porte-parole ?
J'écris très vite et je ne me souviens pas forcément de ce que j'écris. Mais je pense qu'on est sûr de rien et que le doute est salutaire. Mais quand même, il y a des moments où l'on entend quelque chose. Ce n'est pas très rationnel au sens ordinaire du mot. Mais on sait que c'est important et on suit. Enfin, moi, enfant, j'avais envie de faire des armes au japonais alors que je savais même pas où était le Japon. Personne n'en faisait autour de moi et j'en avais quasiment jamais entendu parler. J'ai suivi des voix qui ont paru étranges à tous ceux qui m'entouraient. Mais il y avait quelque chose qui me disait voilà, et j'y allais comme ça, voilà. Quand la rencontre avec mon maître s'est faite sur un coup de tête. Voilà, un matin, je me suis levé comme d'habitude, je suis allé à la salle de bain. Voilà. À un moment, je me suis regardé dans la glace et je me dis bon, ça suffit, t'as assez déconné. Et maintenant, il faut que tu trouves ton maître. Mais je me le suis dit à voix haute, en me parlant comme si j'étais quelqu'un d'autre et en m'engueulant même. Voilà, j'avais 19 ans. Bon, trouver son maître, j'avais rencontré à peu près tous les Japonais qui venaient en Europe ou qui étaient en Europe à cette époque. Je savais pas où aller, donc comme tout provincial qui sait pas où aller, je me suis dit que je trouverais peut-être à Paris, la capitale. Il y avait un homme que j'avais jamais rencontré à Paris qui faisait de l'aïkido et qui était critiqué par tous les autres. Comme il était unanimement critiqué, je me suis dit peut-être qu'il est différent. Comme rien de ce que j'avais vu ne me satisfaisait, je me suis dit... S'il est différent, et si on le critique autant, peut-être qu'il a quelque chose à m'apporter. Je suis allé le voir. C'était pas mieux que les autres, c'était pareil. Et donc, après le temps que je m'étais alloué pour essayer de comprendre qui il était, je lui ai dit que j'arrêtais de pratiquer l'aïkido, que c'était terminé pour moi, que voilà, que j'étais extrêmement déçu par tout ce qui s'y faisait. Et là, il m'a dit, attendez, peut-être demain, quelqu'un arrive dans un dojo de Paris, et il m'a indiqué l'adresse, et peut-être lui, il m'a dit, lui, ça devrait vous convenir. Alors, vous savez, la petite voix, elle passe par les uns, par les autres. On ne sait pas par où elle vient. Cet homme, je ne l'ai jamais re-rencontré. C'était pourtant une célébrité dans l'aïkido. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu qu'à ce moment, à cette occasion-là. Mais il m'a quand même indiqué le chemin. Et le lendemain, j'ai rencontré mon maître, qui lui a pas hésité, parce que nous étions 200 au cours. Et il a salué, faire les misogi, et il m'a appelé tout de suite. Voilà. Et donc, j'avais entendu quelque chose sans le savoir. Ça m'a été répété par cet homme qui savait même pas non plus de quoi il parlait, réellement, parce qu'il avait aucune idée de ce qui allait se passer après. Mon maître, lui, il avait entendu aussi, il était venu là, il m'en a parlé plus tard. Vous savez, fort heureusement, nous ne sommes pas que le résultat d'aléas, d'impédimenta, de choses, fort heureusement, quelque part, il y a en nous quelque chose qui sait entendre.
Alors, ça tombe bien, puisque vouloir unifier l'autre à soi est un but à la fois noble et j'ai envie de dire presque divin. Puisque cette idée d'unité comme ça, c'est divin.
Je suis pas sûr des mots. Je pense que on peut pas unifier les gens. Déjà, ils sont uniques de toute manière. Donc, il faut les avoir comme ils sont. Ce que nous prenons, ce que l'aïkido défend, enfin notre aïkido défend, c'est quelle que soit la personne que vous regardez, regardez-la comme parfaite. Elle est parfaite. D'accord ? Ça, c'est un point. Après. S'il peut y avoir une union entre les êtres, elle n'est pas dans le fait que l'un s'unit à l'autre ou là, le fait que nous pouvons accomplir ensemble une tâche commune. Oui, là, c'est dans la tâche commune que nous accomplissons ensemble, cette tâche que nous n'aurions jamais pu détecter sans nous rencontrer, qu'il peut y avoir une forme d'unité, d'unification, enfin d'union, plus que d'unité, plus que d'unification. Alors c'est vrai que se donner à sa tâche, c'est recourir à son unité. Il faut un minimum d'abnégation, il faut être à l'écoute, il faut accepter d'entrer dans un processus dont on ne sait pas comment on sortira. D'accord ? Donc ça veut dire de la confiance, mais cette confiance, elle existe à partir du moment où on entend l'esprit, à partir du moment où véritablement nous sommes habités, conscients d'être habités.
Dernière question. On parlait de violence au début de l'entretien, inhérente à l'être humain, depuis l'origine. Est-ce qu'il y a une fin possible de cette violence inhérente donc à la mémoire cellulaire, selon vous ?
Il y aurait deux réponses. La première, c'est j'aimerais le croire, je veux le croire, je le crois. La deuxième, c'est je me bats tous les jours, je fais tout ce qui est possible pour moi, pour que les gens que je rencontre parviennent à une forme de paix qui leur permette de pacifier leur entourage. Voilà. Après, je sais que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais là, d'un point de vue un petit peu plus large, je dirais que nous sommes une civilisation qui est extrêmement violente. La violence est partout, les guerres sont partout. Il y a une violence institutionnelle qui est de plus en plus évidente et qui s'exprime par une forme de répression épouvantable, y compris chez nous, dans une pseudo-démocratie où on répond aux gens par la police et par des grenades, etc. Enfin, c'est une aberration complète. Il n'y a aucun respect de ce qu'est l'être là-dedans. Il n'y a aucune prise de conscience réelle. Et tout ça, il faut que ça cesse. Parce que tout ça, ce sont les signes d'une décadence rapide, puissante, extrêmement destructrice. Donc je pense que véritablement, je l'ai dit souvent, en ce qui concerne la violence, rien n'a changé depuis la préhistoire. On est encore à la préhistoire. C'est-à-dire, quelque chose ne va pas, on essaie d'éliminer l'autre qui est en face de soi. Okay ? Et cette société continuera à vivre à condition qu'elle pose d'autres bases et qu'elle les pose d'une manière extrêmement puissante et large. Okay ? Et donc, je pense que le gros changement, il est là, il est dans le refus absolu de toute forme de violence. Et pour ça, il faut instaurer comme règle absolue le respect de tous. Mais de tous. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette société produit autant de criminels que de juges et que de policiers dont elle a besoin. Que des gens sont, semble-t-il, violents, mais ils sont manipulés par des forces qui les dépassent et qui les mettent dans l'obligation de cette violence. Et que on peut toujours les condamner, les juger, eux, mais il faudrait surtout désamorcer les forces qui les font agir comme ça. Et ça ne peut pas se faire autrement que par une prise de conscience profonde, et j'allais dire unanime, mais là, d'accord, vous allez me traiter d'idéaliste, d'utopiste, etc., mais je m'en fous tout ça, parce que l'idéal, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans l'homme. Donc les bases d'une nouvelle société, elles sont là pour moi, et j'essaie autant que faire se peut, et bien maladroitement probablement, d'y contribuer en agissant quotidiennement, de manière évidemment insuffisante, mais voilà.
Juste une dernière petite question, parce que vous avez connu Guy Tamalas, vous me disiez tout à l'heure, le scribe des dialogues avec l'ange, et de ce fait, on peut dire que vous êtes en quelque sorte un rêveur, puisque vous croyez, enfin vous êtes plutôt positif, je pense, par rapport à l'avenir de cette société, du monde en tout cas.
Si je ne l'étais pas, j'enseignerais pas. Bien sûr, moi je vois des gens venir vers nous qui sont des gens merveilleux, géniaux, qui portent l'espoir en eux, et qui sont créatifs, qui sont intelligents, et ces gens-là feront la société de demain. Maintenant, on est dans une phase où il faut absolument faire entendre d'autres voix, quoi. C'est bien gentil, la rationalité à tout prix qui n'en est pas, la rationalité au service de l'argent, la rationalité au service d'un monde matériel qui n'a aucune saveur. Il faut que quelque chose change en profondeur. Et je crois qu'il y a des gens qui sont là et qui sont assez forts, assez puissants, probablement capables de faire changer les choses. Probablement. En tout cas, moi j'en vois passer et j'en vois qui sont vraiment merveilleux.
Merci monsieur Cognard.